Radio Barque, nous reprenons le cours de notre émission pour le 16e de cette 12e saison. Notre invité, je le rappelle, est Adrien Arsens, alors qui est un Narbonnais instructeur en survie, mais qui vient de rentrer, et on l'a déjà entendu dans une première partie, d'une expédition dans l'Antarctique, c'est-à-dire, grosso modo, pôle sud. Alors, vous nous avez expliqué, Adrien Arsens, la traversée, ce qu'on appelle le passage de Drake, quelque chose d'assez rude. Là, maintenant, vous arrivez en vue des côtes du continent austral. Alors, dites-nous ce que vous voyez. Est-ce que vous ressentez peut-être aussi?
Alors, beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. La première image qui me vient en tête, c'est donc cette grande étendue de blanche qu'on voit alors sur l'horizon un peu en regardant sur le pont du navire.
Alors, c'est pas de la banquise, mais c'est blanc quand même.
Oui, c'est blanc quand même. En fait, l'Antarctique, c'est donc une partie de terre immergée qui, si vous voulez, est recouverte de glace.
Oui, quand même. Oui.
Donc, évidemment.
Même en été.
Oui. Tout à fait.
Quelle température, grosso modo?
Alors, dans cette période-là, durant cette période-là, en été, on va être dans des températures plutôt modérées.
C'est l'été, il faut rappeler que c'est l'été.
On va dire entre 0, peut-être un peu négatif, ça dépend, on va dire. En journée, on va aller jusqu'à 10 degrés, peut-être. Et dans la nuit, on peut aller jusqu'à moins 5, même plus.
Oui, voilà. Mais rappelons qu'à cette période, c'est l'été.
Exactement.
Parce qu'en hiver, ça peut être beaucoup plus froid que ça.
Oui, alors, déjà, là, je vous parlais de la température dans la norme, mais en réalité, le ressenti est bien plus froid quand même. Hein.
À cause du vent,
par exemple. Si on est à l'abri, dans des bonnes conditions, ça va. Si on est exposé au vent, ça peut vite descendre. Et sinon, oui, comme vous disiez, en hiver, c'est bien plus négatif. Là, on en peut arriver jusqu'à des records à moins 80 dans ces zones.
Jusqu'à moins 80.
Jusqu'à moins 80.
Oh là là, oui. À part les phoques et les manchots, qui peut survivre? Alors donc, vous arrivez. Alors donc, là, c'est quand même plus abordable pour vous. Vous avez des vêtements particuliers, je suppose.
Oui, des vêtements particuliers, adaptés grand froid, hein. Surtout imperméables et coupe-vent.
Et coupe-vent, voilà, c'est ça.
Voilà, là, nous, c'est un peu particulier parce qu'on a un équipement aussi de navigation également. On a donc des vestes de car ou des salopettes de car qu'on appelle.
Oui, puisque c'est vrai que vous participiez à la vie du bateau et à la traversée. Alors donc, vous arrivez. Comment ça s'est passé? Vous êtes sur un voilier, un navire donc. Donc, vous longez les côtes, vous faites du cabotage, ce qu'on appelle. Mais de temps en temps, vous faites des escales aussi. Vous mettez pied à terre.
Oui, tout à fait. On a fait de nombreuses escales et débarquements. Sur plusieurs endroits des îles de la péninsule, notamment le premier était l'île Déception, qui est finalement une île volcanique, donc avec un fort contraste entre une terre, un sable volcanique si vous voulez au niveau du sol, et donc de la glace et de la neige autour.
Mais volcan encore actif?
Oui,
ou ancien encore actif?
Tout à fait, oui. Donc, il y avait à l'époque une base, donc au début du 20e, une base, même plusieurs bases, argentines notamment, mais aussi anglaises, qui ont été détruites à plusieurs reprises, notamment à cause d'éruptions volcaniques.
Ah oui.
Et au bout d'un moment, ils ont abandonné, il n'y a plus de reconstruction.
Et alors, quand vous naviguez donc au large, qu'est-ce que vous voyez? Il n'y a plus personne qui vit sur place?
Non, il n'y a plus de personne qui vit sur le continent antarctique, on va dire, en termes autres que scientifiques, à part voilà donc des scientifiques sur d'éventuelles bases, donc des bases chiliennes, argentines, anglaises et ukrainiennes, principalement dans cette zone-là.
Oui. Alors justement, vous citez un certain nombre de pays. C'est peut-être le moment d'aborder le statut de ce territoire. Il y a une sorte de traité international.
Oui, tout à fait. Donc il y a le traité de l'Antarctique qui a été signé en 59 et qui est entré en vigueur en 61, qui stipule que donc justement il est interdit toute appropriation territoriale, activité militaire ou exploitation de ressources à des fins commerciales. Donc sa mise en œuvre, si vous voulez, et son contrôle relève exclusivement des États signataires, Donc, c'est uniquement ces États-là qui sont habilités après à...
Oui, c'est une sorte de Nations Unies pour la protection de ce territoire.
C'est pas mal résumé.
Oui. Oui. Donc, il faut le savoir, comme c'est un territoire, bon, très particulier, selon ce que vous dites, forcément qui peut attirer et qui a déjà attiré la convoitise des hommes, pour le moment, pas touche, quoi, pour le moment.
Pour le moment, espérons, jusqu'à à peu près 2050. Quand, si je dis pas de bêtises, dans ces eaux-là, où...
qui est la durée du bail, enfin la durée de l'engagement,
qui pourrait malheureusement amener potentiellement à des négociations qui pourraient être peut-être néfastes, espérons pas.
Et alors les traces des explorateurs précédents, par exemple, il y a un Français nommé Charcot qui a laissé quelques traces là-bas.
Port Charcot, donc qui est, on va dire, un des endroits emblématiques, si vous voulez, des premières expéditions et surtout de la trace française en Antarctique, donc qui date du début du XXe, où on a pour l'instant comme trace le cairn érigé par leur équipe.
C'est-à-dire un mémorial de pierre.
C'est ça, un amas de pierre où souvent les explorateurs à l'époque ils laissaient des traces un peu comme des récits de leur aventure, leur carnet d'exploration, de voyage.
Oui, donc c'est ces traces-là que c'est ce qu'on peut voir quand
c'est ce qu'on peut voir, oui.
C'est
voilà.
Ce qu'on peut voir quand on y va. Alors, vous naviguez, on va revenir sur les escales, mais vous naviguez dans un endroit où forcément il y a de la glace, il y a des icebergs, et il y a ce que vous appelez des growlers, d'un mot anglais, des gros morceaux de glace qui sont des petits icebergs.
C'est ça, ce sont des fragments d'icebergs.
Oui, et qui sont apparemment relativement... Enfin, qui posent un souci aux navigateurs.
Oui, alors, les growlers, ce sont des fragments d'iceberg donc, qui font quelques mètres, parce que sinon, ils sont considérés comme icebergs, à proprement parler. La subtilité, c'est qu'en fait, comme pour un iceberg, la partie immergée peut aller de 80 à 90%, si vous voulez. Donc, un iceberg qui fait 90 cm peut faire quelques mètres, pour donner une image.
Et ça peut faire des dégâts sur un navire.
Sur la coque, notamment.
Ouais. Et donc votre rôle parfois c'était un peu non seulement de les éviter pour le capitaine, mais de les repousser.
Exactement, c'était même un de mes rôles principaux consistait à me placer au niveau de l'étrave, en tout cas la partie avant du bateau, pour donc à l'aide de gaffes, on va dire de perches en bois pour simplifier, d'éloigner, de dévier la trajectoire des plus gros, des plus conséquents qui pourraient éventuellement causer des problèmes, des dégâts à la coque.
Voilà, et alors après, de temps en temps, ben, vous quittez le navire puisqu'il y a des escales, donc là vous mettez pied à terre. Mm-hmm. Alors dites-nous comment ça se passe.
Alors pour les pieds à terre, on doit toujours, respecter un protocole strict, donc notamment de désinfection biologique, avec une pompe notamment, avec un spray qu'on doit se répandre sur tous les vêtements, dans un seau rempli également, tremper les bottes pour éviter toute contamination.
C'est ça, voilà. Vous commencez par vous désinfecter.
Avant d'y aller,
systématiquement.
Systématiquement.
Pour éviter d'apporter quelque chose.
Oui, des graines, des maladies. Des...
Sur ce continent. Exactement. Et alors, une fois que vous y êtes, donc là, vous foulez au pied le continent, alors vous n'y voyez que les animaux, évidemment. Mais quelle est la relation entre l'homme et l'animal dans ces cas-là?
Alors, la relation entre l'homme et l'animal est assez particulière, étant donné que l'homme, malgré tout, n'est pas particulièrement présent de manière permanente là-bas.
Oui, c'est l'intrus quand même.
Voilà, il reste un intrus, et donc les animaux sont plutôt curieux de nous voir. Je pense par exemple au manchot qu'on a pu observer, qui avait un comportement assez curieux. Il s'approchait un maximum de nous. On voit qu'ils n'ont pas vraiment peur, mais en même temps, ils se méfient un petit peu. vraiment de la curiosité, oui.
Et vous, votre comportement, vous avez des consignes, j'imagine.
Tout à fait. On devait respecter des distances de sécurité, voilà, pour éviter interférement avec les animaux pour justement ne pas dérégler leur quotidien, avec une dizaine de mètres à respecter. Et bon, si les animaux s'avancent vers nous, ce qui peut arriver dans ce cas-là, on n'est pas censé faire grand chose à part s'accroupir.
Ah, il ne faut pas rester debout.
Non, il vaut mieux se faire petit pour ne pas impressionner, s'imposer.
Oui, mais pour ne pas paraître plus dangereux ou plus. Et alors, ces animaux, vous avez parlé des manchots, il y en a d'autres aussi?
Il y a plusieurs types de manchots, il y a des oiseaux également marins.
Est-ce qu'il y a des grosses colonies d'oiseaux?
Oui, tout à fait. Notamment à Cuverville, une colonie qu'on a pu observer qui faisait environ plus de 5000 espèces de manchots.
Ah oui?
De type papou.
Oui, d'accord. Oui, donc ça fait du monde, quoi.
Ça fait du monde. Ouais. Et ça fait du bruit aussi.
Ça fait du bruit. Et vous, votre rôle dans ce cas-là, c'est observer, filmer, j'imagine. Vous ne pouvez pas aller au-delà, hein, selon les consignes qu'on vous donne.
On pouvait filmer, exactement, pas aller au-delà, ne pas interférer, ne pas marcher sur leurs traces, parce qu'ils font notamment plein de passages, des allers-retours entre la terre et l'eau. Et on peut voir dans la neige des traces de neige. Et donc, on évite absolument de mettre le pied sur ça.
Oui. C'est-à-dire qu'en fait, à tout moment, vous devez être extrêmement vigilant et sur la réserve un peu, quoi.
Exactement. Exactement vigilant et respectueux de l'environnement.
Oui, d'accord. Et alors donc, ça durait combien de temps quand vous étiez sur Terre? Parce qu'après, il fallait revenir au bateau.
Oui, en moyenne, je dirais quelques heures, 3 heures par là. Ça dépend des endroits, on pouvait y rester un peu plus ou un peu moins selon les conditions aussi climatiques.
Et quand vous avez fait différentes escales, vous avez retrouvé à peu près le même décor et le même environnement ou pas?
Alors, plus ou moins. Alors, on va dire que la première île Déception...
Est-ce qu'elle porte bien son nom ou mal?
Non.
C'est pas une déception.
C'est absolument pas une déception, ouais. Ça vient de l'anglais, je me rappelle plus pourquoi il l'appelait Deception Island, mais
Oui, d'autant plus qu'en anglais, Deception, ça veut pas dire déception, juste, mais voilà, tromperie du prix.
Exactement. Et c'est donc pas la signification qu'on pourrait penser en français. Mais non, voilà, la divergence, c'est que, cette île était particulière de par son aspect volcanique, sinon là, quand on se rapproche de l'Antarctique, on a plus cet aspect-là propre au continent, donc de terre et de glace à proprement parler.
Oui, d'accord. Et alors, vous y alliez comment depuis le bateau? Avec une chaloupe, je suppose?
On avait, oui, en annexe, un zodiac, ouais, qu'on utilisait pour faire tout débarquement, où on ne pouvait pas se rapprocher plus avec le voilier.
Oui, enfin, quelque chose d'assez classique. Les zodiacs peuvent quand même naviguer sur ces eaux australes.
Oui, tout à fait. À l'intérieur des terres, quand on se rapproche de la côte, c'est relativement acceptable, on va dire, au niveau des climatiques.
Et alors, en revenant sur le navire, vous faisiez ce qu'on appelle un débriefing ou quelque chose comme ça?
Tout à fait. On faisait part de nos observations, de notre ressenti.
Est-ce que vous compreniez parfois, après coup, des choses que vous aviez vues dans le débriefing, par exemple?
Oui, tout à fait, oui. Au niveau des observations, mais aussi même de ce à quoi on pouvait s'attendre, de ce qu'on pouvait se pourrait ressentir, peut-être même aussi.
Oui. Et est-ce qu'il vous arrivait d'avoir froid? La question toute bête. On a parlé des vêtements.
Alors, froid, je dirais plus quand on est exposé au vent, oui. Tout à fait.
Mais quand vous étiez sur Terre, par exemple, pas plus, pas moins.
Si on était exposé au vent, oui. Sinon, c'était relativement modéré. Et pareil sur le bateau. Le bateau, la nuit, il faisait quand même froid aussi. Et on va dire que la différence, c'est qu'en navigation, on a ce côté un peu d'humidité aussi, toujours, qui amplifie la sensation de froid.
Oui. Oui, parce que votre hôtel, c'est le navire, finalement.
Exactement.
C'est ça qu'il faut bien imaginer.
C'est ça.
Bon. Et alors, à partir d'un certain temps, donc on envisage le retour. Là, c'était prévu. Ou est-ce que c'est tributaire de la météo?
C'est vraiment tributaire de la météo. C'est-à-dire qu'on doit trouver la meilleure fenêtre pour pouvoir effectuer cette traversée dans les meilleures conditions. Très souvent au niveau du Cap Horn, des dépressions se forment, et donc il faut jouer un peu avec ça, avec le meilleur timing pour justement se lancer sur le passage.
Oui, donc on n'a pas une feuille de route tellement écrite à l'avance.
Non, on adapte au fur et à mesure également aussi, que ce soit pour ralentir, pour passer entre deux dépressions par exemple, ou accélérer au contraire pour éviter d'en reprendre une derrière.
Et alors là, retour vers Ushuaïa, sur un itinéraire semblable ou différent?
Le retour pour Ushuaïa était légèrement différent. On était moins à l'est et on est passé par le Cap Horn, où justement on a eu des conditions un peu moins sympathiques, avec des vents aux alentours des 60 nœuds.
Oui, alors des nœuds, ça, un nœud c'est je crois 1800 mètres.
Oui, c'est ça.
Donc
tout à fait.
Ça fait de l'ordre de 100, plus de 100 à l'heure. Quoi.
Exactement, voilà. 100 à l'heure. On peut imaginer sur un voilier les conséquences.
100 à l'heure et à quelle température?
Oh, honnêtement, je pourrais pas vous dire, mais dans ces eaux-là, oui.
Oui, oui, voilà. Oui. Bon, pour donner à un Narbonnais qui a l'habitude du CERS et du froid ce que ça peut signifier. Retour donc vers Ushuaïa et on va y revenir, Adrien Arsens, dans une troisième partie.